SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Vous êtes avec SBS French.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Les peuples Cammeraygal de la nation Gurringai ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes, ainsi que les insulaires du détroit de Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio SBS, je m'appelle Grégory Pless et c'est moi qui ai le plaisir aujourd'hui de vous accompagner pour une heure d'émission en français. Au programme du jour, une plongée historique, on va s'intéresser au bombardement de Darwin au cours de la Seconde Guerre mondiale. On parlera de vin également avec Christophe Mallet et Alex Rougeau. Et puis on reviendra bien sûr sur l'actualité sportive ainsi que sur les dernières informations économiques de la semaine. Mais tout d'abord, place aux actualités du jour, c'est l'heure du journal. À la une de l'actualité de ce jeudi 3 octobre 2024. Israël continue de bombarder le Liban alors que l'État hébreu a lui-même été ciblé hier par des missiles iraniens. La communauté internationale observe de très près la situation au Proche-Orient où les tensions ont rarement été aussi vives que ces derniers jours. Des tensions palpables jusqu'en Australie où la police de Nouvelle-Galles du Sud veut faire interdire des rassemblements pro-palestiniens prévus ce dimanche ainsi que à la date anniversaire du 7 octobre. Et puis Paul Watson, le fondateur de Sea Shepherd, le plus connu des militants anti-chasse à la baleine, va rester en prison. Et je vous le disais dans les titres, le Liban a de nouveau passé la nuit sous les bombes. L'armée israélienne a mené hier une offensive qui a frappé la banlieue, mais également le cœur de la capitale Beyrouth. Ces assauts, durant la journée de mercredi, auraient ainsi fait 46 morts. En parallèle, la communauté internationale observe également de très près la réaction israélienne aux attaques de Téhéran, qui a envoyé hier plus de 200 missiles sur l'État hébreu. La perspective d'un conflit direct entre ces deux pays inquiète en Iran, où Siavosh Ghazi, le correspondant de RFI sur place, a interrogé la population.
Dans une nouvelle mise en garde contre Israël, le président iranien a déclaré que Téhéran attaquerait encore plus fort Israël en cas de riposte de l'État hébreu. Il a qualifié de succès l'attaque par 200 missiles contre Israël en réponse à l'assassinat d'Ismail Haniyeh, tué lors d'une frappe ciblée à Téhéran, et de Hassan Nasrallah à Beyrouth, en ajoutant que l'attaque avait montré que le dôme de fer était plus fragile qu'un dôme de verre. Malgré ces menaces, la population craint une riposte israélienne qui pourrait entraîner le pays dans une guerre ouverte avec l'État hébreu et même les États-Unis. Signe des inquiétudes, le gouvernement a décidé de prolonger jusqu'à jeudi matin à 5 heures l'interdiction de tous les vols intérieurs et internationaux. Ce qui montre que le pouvoir envisage même une riposte israélienne dès cette nuit, mais il veut mobiliser ses partisans. D'ailleurs, le guide suprême iranien, l'Ayatollah Ali Khamenei, a annoncé qu'il dirigera personnellement la prière collective ce vendredi à Téhéran, signe qu'il ne craint pas une attaque israélienne. Siavosh Ghazi, Téhéran RFI.
Pas de crainte d'une attaque israélienne du côté du pouvoir iranien. Toujours est-il que cet envoi de missiles sur l'État hébreu a été très sèchement critiqué par le président américain Joe Biden. Il a au passage réaffirmé sa solidarité avec Israël, sans toutefois aller jusqu'à soutenir l'État hébreu dans le cas d'une frappe sur les installations nucléaires de l'Iran. On écoute le président des États-Unis.
We'll be discussing with the Israelis what they're going to do, but they have, all seven of us agree that they have a right to respond, but they should respond in proportion.
Le ton à l'égard d'Israël n'est pas toujours aussi conciliant qu'à Washington depuis les Nations Unies. Ainsi, Antonio Guterres, en ne dénonçant pas explicitement l'attaque iranienne sur Israël, s'est attiré, lui, les foudres du gouvernement hébreu, qui a même déclaré que le secrétaire général de l'ONU était persona non grata. Pour le chercheur à l'IRIS, Romuald Sciorra, c'est surtout parce que l'ONU apparaît aux yeux du gouvernement israélien comme le bouc émissaire idéal.
Israël aujourd'hui tape sur l'ONU parce que l'ONU est une cible facile. Il est beaucoup plus facile de démolir les Nations Unies et de faire de son secrétaire général une personne non grata sur le sol israélien que de critiquer ouvertement le président des États-Unis, par exemple. Donc, en attaquant Guterres, Netanyahou s'en prend à la communauté internationale dans son ensemble et surtout justifie sa position et sa politique guerrière vis-à-vis de son opinion en se positionnant comme une victime, en positionnant Israël comme une victime de la communauté internationale et en positionnant Israël comme une victime de l'antisémitisme généralisé qui, selon lui, aujourd'hui domine l'ensemble de la communauté dite internationale.
Et c'est en ce moment même à Sydney que la police de Nouvelle-Galles du Sud est en train de demander à la Cour suprême d'interdire une manifestation pro-palestinienne prévue le 7 octobre. Il y en a également une d'ailleurs de prévue le dimanche 6. Le 7 octobre, c'est bien sûr la date anniversaire du massacre perpétré en Israël par le Hamas. Et c'est justement ce qui justifie cette demande d'interdiction de la part de la police qui craint que ce rassemblement soit l'occasion de dérapage et même de possibles explosions de violence. Les organisateurs de ce rassemblement dénoncent pour leur part une entorse grave à la liberté d'expression. Mais il faut dire que depuis le début de cette polémique, ils n'ont pas réussi à trouver de soutien parmi les autres élus du Parlement. Ainsi, le député d'opposition Barnaby Joyce partage entièrement l'avis du Premier ministre Anthony Albanese. Il estime que l'organisation de ces événements serait, selon lui, de mauvais goût et contre-productif. On écoute Barnaby Joyce.
You can't have a protest on the 7th of October. What on earth are you going to? Why would you go out into the streets on that day? It's outrageous. You're not going to assist anything.
Et parmi les autres effets de ce conflit au Proche-Orient sur la scène politique australienne, on apprend que l'ancienne sénatrice travailliste Fatima Payman, ancienne membre du Parti travailliste, va lancer d'ici quelques semaines son propre parti. Selon The Australian, qui a révélé l'information aujourd'hui, elle envisage, la sénatrice, de présenter sous cette nouvelle étiquette des candidats aux prochaines élections sénatoriales dans tous les États du pays et notamment dans des circonscriptions susceptibles de basculer. Fatima Payman, je le rappelle, est âgée de 29 ans. Elle a été élue pour la première fois il y a 2 ans et elle a quitté donc il y a quelques mois le Parti travailliste sur fond de désaccord quant à la politique du gouvernement sur le Moyen-Orient. Et une bonne nouvelle pour les entrepreneurs aborigènes puisque les contrats liant ces entreprises gérées par des peuples des Premières Nations et le gouvernement fédéral viennent de passer la barre symbolique des 10 milliards de dollars. Parmi celles-ci, une société d'aérospatiale, Gunganji, établie sur la Sunshine Coast dans le Queensland et qui travaille notamment avec Boeing et le secteur de la défense. Pour son fondateur, Daniel Joinby, c'est un secteur d'avenir ouvert aux jeunes talents aborigènes.
What we really focus on is young adults who may have fallen through the system, and we look to create pathways in adjacent sort of professional services. So it might be things like security or operations, where we're looking for low barriers for entry, repeatable tasks, where we can give these young adults an opportunity and a chance to participate in what can be a technical environment, but it isn't always a technical environment.
Et encore un mot sur le gouvernement australien qui s'est engagé à lutter contre un phénomène connu sous le nom de shrinkflation. La shrinkflation, ça consiste pour certains fabricants à maintenir le prix de vente de leurs produits en magasin, mais en réduisant la taille ou la quantité de ces dits produits. Pour endiguer ce phénomène, le gouvernement compte notamment améliorer la lisibilité et la visibilité des prix à l'unité. Il veut également harmoniser les unités de mesure employées par les différents acteurs de la grande distribution, qui enfin pourraient se voir infliger de lourdes amendes en cas d'infraction. À Taïwan, la population se prépare à l'arrivée du typhon Krator qui va traverser l'île du sud au nord. Les autorités s'attendent à d'importants dégâts. Les précisions du correspondant de RFI à Taïwan, Julien Bois.
Depuis mercredi matin, tout le pays est à l'arrêt. Écoles et entreprises sont fermées pour la journée et les autorités incitent la population à rester chez soi. Dans les aéroports, tous les avions sont cloués au sol et une centaine de vols internationaux ont été interrompus. À l'approche de l'île, le typhon s'est heureusement affaibli dans la journée, mais les rafales de vent à plus de 200 km/h et les pluies torrentielles au sud du pays font craindre des glissements de terrain et des inondations. Plus de 9000 personnes ont déjà été évacuées des zones les plus à risque et des inondations sur la côte ouest ont déjà été signalées. De son côté, le ministère de la Défense a mobilisé près de 38 000 soldats prêts à secourir la population en cas de désastre. Selon le dernier bilan des autorités, le typhon aurait causé la mort de 2 personnes et fait 102 blessés. 2 personnes sont portées disparues. La décision a été prise de prolonger le temps de congé jusque jeudi dans tout le pays pour protéger la population. Jules Bois, Taipei, RFI.
Paul Watson va donc rester en prison. Le célèbre défenseur des animaux marins s'est vu prononcer son maintien en détention par la justice du Groenland. Le militant écologiste est accusé par le Japon d'avoir porté des blessures et causé des dommages sur un navire chasseur de baleines en 2010. Et c'est avec ce jugement la troisième fois que le fondateur de Sea Shepherd se voit refuser sa remise en liberté. On écoute la réaction de la représentante française de Sea Shepherd, Lamia Essemlali, une réaction recueillie par Igor Strauss pour RFI.
La décision du juge n'est pas une surprise, puisqu'on s'attendait à un bis repetita des audiences précédentes. C'est-à-dire qu'il refuse toujours d'analyser les éléments de preuve de nos avocats qui pourraient innocenter Paul Watson. On a vraiment le sentiment qu'en fait la décision elle est prise avant même l'audience. Donc on est vraiment là dans une parodie de justice. On voit bien que la volonté en fait est de le maintenir en détention. La justice n'est pas rendue, les droits de la défense ne sont pas respectés. Et ça ne fait que conforter le fait qu'on est vraiment dans un dossier politique. Avec un Japon qui veut absolument obtenir sa vengeance et le Danemark qui tente de la lui obtenir. En tout cas, le Danemark se comporte vraiment comme un pays indigne de l'Union européenne et on sait que le Danemark n'est en plus pas un pays neutre puisque Paul Watson et Sea Shepherd se mobilisent contre la chasse des dauphins qui est défendue par le Danemark, hein, qui mobilise des frégates militaires pour nous empêcher de sauver les dauphins aux îles Féroé. Et là, on a vraiment le sentiment que finalement, on a des chasseurs de baleines japonais et des chasseurs de dauphins danois qui se sont alliés pour faire tomber leur ennemi commun.
Et on va maintenant en France où le Premier ministre Michel Barnier, après avoir prononcé son discours de politique générale mardi devant l'Assemblée nationale, a fait face hier à sa première séance de questions au gouvernement, des questions qui se sont essentiellement focalisées sur les tensions dans les Outre-mer. Compte rendu Victorien Villaume pour RFI.
5 questions sur 10 au sujet des Outre-mer, la situation migratoire à Mayotte avec la députée RN Anchia Bamana, le coût de la vie en Martinique avec le député socialiste Giovanni William.
Nous vous demandons en urgence un calendrier législatif en vue de l'adoption en 2025 de mesures concrètes contre la vie chère.
Et puis 3 questions posées sur la crise en Nouvelle-Calédonie, notamment par le député gauche-démocrate Emmanuel Djibaou.
Comment la France s'inscrit dans la poursuite du processus de décolonisation afin d'accompagner la Nouvelle-Calédonie vers sa pleine émancipation, comme stipulé dans l'accord de Nouméa et sous quel calendrier ?
Michel Barnier ne répond lui-même qu'à deux questions, l'une sur l'un de ses chantiers prioritaires, la santé mentale, l'autre sur la Nouvelle-Calédonie.
Nous avons pris le temps pour écouter et vous poser la question du report des élections. Nous prendrons aussi le temps de retravailler la question du corps électoral pour retrouver le chemin de l'apaisement et d'une solution institutionnelle.
Après avoir annoncé la veille l'abandon de la réforme électorale, le Premier ministre affirme vouloir faire les choses dans le respect de toutes les forces politiques.
Et pour terminer ce bulletin, un mot de la météo en Australie pour ce jeudi 3 octobre 2024. 18 degrés et quelques averses à Perth, 28 degrés à Adelaide où la pluie pourrait également faire son apparition en fin de journée. Du soleil en revanche et 25 degrés affichés à Melbourne, 21 degrés à Sydney et un ciel nuageux. Le temps est également à la grisaille aujourd'hui à Brisbane où il fait 23 degrés. Et enfin, grand soleil à Darwin ce jeudi où le thermomètre va monter jusqu'à 35 degrés.
Journal des sports, on commence avec du football et la deuxième journée des matchs préliminaires de la Ligue des Champions et quelques résultats tout simplement énormes. Tout d'abord, Brest, le club français, a battu Salzbourg sur le score de 4-0. Les Brestois qui célèbrent leur deuxième victoire d'affilée et de leur histoire en Champions League. Et même si ça s'entend pas dans la voix de l'entraîneur Éric Roy, l'entraîneur brestois, ils sont plutôt contents.
Bah, c'est le football quoi. Et que un match ne ressemble jamais, que je pense que on avait été déçus, nous staff, notre production là-bas. Je pense que les joueurs encore plus de ce qu'ils avaient produit à Auxerre. Après, est-ce qu'inconsciemment ça jouait le match derrière, j'en sais rien, j'avais pas l'impression parce que j'avais l'impression qu'on était vraiment focus sur ce match à la Baie des Champs. Maintenant, voilà, après, il faut aussi quelquefois prendre une bonne claque pour se relever. Et ce qui est important, c'est pas de tomber, c'est de se relever, de continuer à avancer. C'est ce qu'on a fait ce soir. Donc c'est vrai que je suis très heureux déjà pour les joueurs, très heureux pour le club. Et puis bon, c'est une magnifique aventure pour nous quand même. 6 points après 2 matchs, qui l'aurait imaginé quoi.
Voilà, Éric Roy, l'entraîneur brestois, toujours avec son calme olympien. Toujours est-il que les Brestois sont toujours invaincus dans toute leur histoire de la Champions League. C'est vrai, ils ont fait que 2 matchs de leur histoire, mais 2 matchs, 2 victoires cette année dans la Champions League. Les autres résultats, le Sparta Prague et Stuttgart font match nul 1 partout. Dortmund a atomisé le Celtic sur le score de 7-1. Le Sporting de Lisbonne fait match nul contre le PSV Eindhoven. Barça qui bat les Young Boys, les clubs suisses des Young Boys sur le score de 5-0. Man City a battu le Slovan de Bratislava sur le score de 4-0. Le Bayer Leverkusen, la grosse révélation de l'année dernière, bat le Milan sur le score de 1-0. L'Inter bat Zvezda sur le score de 4-0. Et Arsenal a battu le Paris Saint-Germain sur le score de 2-0. Ça ne va pas pour le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, comme nous l'explique Luis Enrique après cette défaite.
We knew from the first minute they were going to press us high. Of course, aggressive, and they did it great. We couldn't overcome that kind of pressure. And you can, after the match, it's easy to say that player has to play, the other player has not to play. Okay, I accept that like part of the game, but if you try to overcome that pressure, but you lose every single duel, you are going to be far away to win that match. Mikel Arteta has been managing Arsenal, I think that's the fifth. Okay. I've been managing that team 1 year and 2 months. I don't know where we are. I have a clear idea where I want to be, but I don't know how many times I'm going to need.
Luis Enrique, l'entraîneur donc du Paris Saint-Germain. Les autres résultats, Benfica a battu l'Atlético Madrid sur le score de 4-0. Liverpool bat Bologne sur le score de 2-0. Juventus a battu Leipzig sur le score de 3-2. Club Brugge, belle victoire pour les Belges contre Graz sur le score de 1-0. Aston Villa qui bat le Bayern de Munich sur le score de 1-0. C'est une belle victoire également pour Aston Villa. Monaco qui a arraché un beau match nul au Dynamo Zagreb sur le score de 2-2. Et la grosse surprise, je voulais garder celle-là pour la fin, c'est Lille, le LOSC qui bat le club, accrochez-vous, du Real de Madrid sur le score de 1-0. Un très 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 beau match des Lillois. Quelle performance de battre le Real Madrid, bien sûr le Real Madrid de Kylian Mbappé. Et c'est pas sans démériter, Thomas de Saint-Léger.
Déjà, il faut dire une chose sur cette victoire du LOSC, c'est qu'elle est complètement méritée. Les Lillois ont eu globalement la main sur le match jusqu'à l'heure de jeu. Ils se sont créés deux grosses occasions en première période avant le but de Jonathan David. Et puis, il y a eu deux choses, je trouve, qui ressortent tout de suite de cette rencontre. C'est d'abord l'extrême suffisance du Real Madrid. On en avait parlé un peu dans l'avant-match en se disant qu'il venait là... Ouais, qui venait là un petit peu en tournée, en gala, et ça s'est franchement vu sur le terrain. C'était limite insultant pour des Lillois qui, eux, ont joué crânement leur chance avec, je trouve, beaucoup de calme, de personnalité, de caractère. Quand vous voyez le jeune Bouadi qui fêtait ses 17 ans, d'ailleurs, il a eu un joyeux anniversaire de tout le public juste après la rencontre. Il jouait comme un patron, il jouait avec beaucoup, je le disais, de personnalité, de caractère. Et puis, quand il a fallu ensuite... je vais pas dire de gros mots, mais bon, se serrer les coudes, voilà, pour résister aux assauts madrilènes en fin de rencontre. Ils ont su parfaitement le faire là aussi avec un chevalier dans les cages qui a été très présent et décisif en fin de rencontre.
Voilà, Thomas de Saint-Léger pour ses résultats et cette énorme victoire du club français donc de Lille sur le Real Madrid. La prochaine journée de cette Champions League sera le 23 et 24 octobre. Donc dès ce week-end, retour au match donc de championnat à peu près partout en Europe. Allez, on parle maintenant de cyclisme et après les mondiaux qui sont déroulés à Zurich. Vous avez très probablement suivi ça à l'antenne de SBS, bien entendu, tout ce week-end. Eh bien, il y avait une autre course importante, la course de Binche-Chimay-Binche, course belge. Eh bien, on peut pas faire plus belge puisque le vainqueur, c'est Arnaud Delis, champion de Belgique dans les couleurs du maillot donc de Belgique sur une des classiques belges. On écoute Arnaud Delis.
Bah, durant toute la journée même, j'avais pas... spécialement des bonnes jambes pendant 2-3 heures. Puis qu'on arrive dans les circuits locaux, local même, ça commence à se débloquer. Et plus la course avançait, mieux j'étais. C'est peut-être à cause du manque de rythme, j'en sais rien, mais l'équipe a aussi fait un super boulot durant toute la fin de course. Chaque fois, on était aux avant-postes quand il fallait le faire. Puis ensuite, ouais, au sprint, j'ai vu Tim Merlier remonter et je me suis mis dans la roue et ensuite je gagne quand même devant des beaux noms, donc c'est chouette de mettre Binche-Chimay-Binche à mon palmarès.
Arnaud Delis donc après sa victoire dans la Binche-Chimay-Binche. Allez, un mot de tennis pour conclure ce journal des sports. Arthur Fils, le français, bat un autre français, Hugo Humbert, en finale du tournoi de Tokyo. C'est assez rare pour le signaler, donc victoire d'Arthur Fils. On l'écoute dans son interview d'après-match.
And I would like to thank my team here, my dad, Fabien as well. I mean, of course there is Seb in France and all my family in France, but thank you very much for the week, for the walks that we are producing since the start of the year. We have been struggling a little bit, but now I think we can enjoy the titles and yes, that's it. So thank you very much.
Voilà donc Arthur Fils tout de suite après le match donc et sa victoire dans ce Masters 1000 de Tokyo. Et ça conclut notre journal des sports pour aujourd'hui. On fait une courte pause et on se retrouve dans quelques instants. Vous écoutez le programme en français et vous êtes sur Radio SBS bien entendu. À tout de suite.
Thank you.
vous êtes sur SBS, il est 13h28. Et tout de suite, on va retrouver Nicolas Perpich et Christophe Mallet pour faire un point complet sur l'actualité économique en Australie. Une actualité dominée ces derniers jours par les bons résultats du gouvernement en matière de budget, mais aussi par un défi qui attend ce même gouvernement, un défi qui se cristallise autour de la question du salaire minimum.
Vous écoutez Le Français sur Radio SBS.
Allez, comme chaque semaine, on va parler d'économie avec notre spécialiste de la question, Nicolas Perpich. Salut Nicolas.
Salut Christophe.
Alors cette semaine, on va parler des finances du pays qui sont dans un meilleur état qu'on le pensait. Alors là, expliquez-nous tout ça.
Voilà, on a l'habitude en Australie, comme dans beaucoup de pays, que le budget du pays est en déficit. Ça veut dire qu'on dépense plus qu'on gagne comme un pays. Et là, pour la première fois depuis très très longtemps, on a deux surplus l'un après l'autre. Donc il y en avait un l'année dernière. Et là, il y en a encore un autre pour l'année financière juste finie. Donc c'est la première fois dans presque 20 ans. Parce que là, on voit que pour l'année financière 2023, en fin de compte, le budget était 6,4 milliards de dollars meilleur qu'on le pensait, qui était prévu en mai. Donc il a fini avec un surplus de 15,8 milliards de dollars, ce qui est assez rare en Australie, comme on vient de dire. Et voilà que vraiment, c'est assez intéressant que, en fait, le revenu que le pays a reçu à cause des impôts, à cause des taxes, a en fait baissé. Donc la raison pour laquelle on a un surplus, c'est qu'il y a moins de dépenses. Et c'est vrai que le gouvernement, avec la pression sur le coût de la vie, etc., essaye de dépenser moins. En fin de compte, ce qui se passe, c'est qu'ils envoient moins d'argent aux États et au territoire. Donc il y a le GST et ailleurs, et le gouvernement donc donne moins dans la distribution de GST et dans d'autres paiements aux États. Et donc on se retrouve voilà avec un surplus de 15,8 milliards de dollars.
C'est intéressant parce que il y a une dizaine d'années, on pourrait dire que l'Australie avait cette obsession de rendre les comptes dans le in the black, comme ils avaient des que ils n'arrêtaient pas de dire, et c'était cette économie un peu à la papa où être en déficit c'était vu comme très négatif, alors que on sait que des économies très fortes, la France pour pas le nommer, est dans un déficit, un trou abyssal. Donc c'est vraiment deux visions de l'économie totalement différentes.
Oui, mais je crois pas que ça a changé tellement ici. Je crois que l'idée que les budgets ici soient en déficit, c'est toujours mal vu. Il n'y a pas encore eu cette idée que en fait l'économie peut très bien marcher même que le budget soit en déficit. Donc pour ça qu'on voit là quand ils ont annoncé ce surplus, le trésorier Jim Chalmers était très 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 content.
On est à la limite du feu d'artifice sur Harbour Bridge. Hein.
C'est ça. Il dansait à Canberra. Ouais. voilà. ouais. Et il dit, bon, il a dit, Monsieur Chalmers, c'était entièrement à cause des dépenses plus basses, malgré le fait que le revenu des impôts était plus bas. Mais bon, le ministre des Finances, Katie Gallagher, elle a dit que c'était à cause de la discipline de gouvernement. Des choses, bien sûr, on va entendre ça, c'est ce qu'on attend du gouvernement. Bon, il y a d'autres gens qui disent, bon, avec un surplus énorme, vous pouvez pas faire un peu plus pour aider les gens en ce moment avec toute la pression qu'il y a. On a parlé la semaine dernière avec les supermarchés qui augmentent les prix artificiellement, qui trompent les gens. Avec tous ces problèmes-là, le taux d'inflation qui reste trop haut, les taux d'intérêt qui restent assez hauts aussi, on peut pas faire un peu plus. Donc, ça serait pas étonnant de voir des mesures annoncées dans les mois à venir, en particulier, bien sûr, parce que on attend l'élection fédérale. Donc là, on peut parler d'un war chest, vraiment, du gouvernement, un tas d'argent. Et il faut s'attendre à des dépenses assez intéressantes avant les élections pour convaincre les gens de voter pour eux, encore une fois.
Ouais, alors c'est intéressant parce que le deuxième sujet, il est en partie lié, hein, parce que c'est un peu le revers peut-être potentiellement de la médaille de tout ça. Le salaire minimum en Australie est fixé à $24.10, mais il y a tout un tas de gens qui ne gagnent pas ça par heure.
Voilà, et ça, c'est les gens avec des disabilités. Et c'est même légal, ça fait partie de la loi.
C'est une folie.
C'est assez étonnant. C'est une folie. Donc, ce qui se passe, c'est que il y a une loi qui s'appelle The Supported Employment Services Award de 2020. Et là, les gens avec des disabilités peuvent être employés sous un contrat et par des compagnies qui font partie du Australian Disability Enterprise. Tout ce que ça veut dire, que c'est des lieux de travail séparés pour des gens avec des disabilités qui ont besoin de l'aide au travail. Et donc, il y a un calcul qui est fait, qui est permis, où les gens avec des disabilités sont examinés, on regarde leur productivité et on décide combien les payer. Et donc, ils peuvent être payés aussi peu que $6.03 à l'heure. $6.03.
C'est incroyable.
C'est incroyable. C'est à peine un café. C'est fou. Il y a même des gens qui gagnent en fait moins que ça. Même que ça, c'est pas très légal, mais ça se passe. Donc, il y a des gens, ils vont travailler toute la journée, ils gagnent même pas $100. Donc, à peine assez pour le transport en commun pour y aller et pour payer leur déjeuner. C'est vraiment très, très petit.
Et c'est légal. C'est légal.
C'est légal sous la loi parce que, le point de vue, c'est que ces gens, ils ont besoin de soutenus au travail, ils ont besoin de l'aide. Et ça, c'est vrai aussi. Peut-être qu'ils ont besoin de quelqu'un qui est là avec eux, un soignant, une soignante, ou ils ont besoin de quelqu'un pour les aider à faire la tâche. Donc ça, c'est pas tout à fait faux, mais quand même, $6 à l'heure, c'est très très bas.
Je vais être ironique, mais on serait pas loin de dire qu'on peut gagner plus en prison. Les gens qui travaillent en prison peuvent gagner plus d'argent.
Probablement, ouais, voilà. Et en fait, c'était quelque chose qui a été examiné par la Royal Commission, l'enquête royale sur les questions de disabilité. Et justement, ils ont trouvé que sous ce forme de travail, il y avait toutes sortes d'abus, de violences, d'abus, les gens étaient exploités, et c'était quelque chose que quatre des six Royal Commissioners, les gens qui menaient l'enquête, eux, ils ont dit que et ça devrait être, cette situation devrait être éliminée avant 2034. Donc, ils ont vu que ça marche pas, que c'est pas juste, qu'il y a des questions de droits de l'homme, il y a des questions de dignité, et ils pensent que ça devrait être éliminé. Bon, maintenant, c'est au gouvernement de le faire. Le gouvernement dit qu'ils font tout ce qu'ils peuvent pour que les gens avec des disabilités peuvent participer dans l'économie et travailler, mais pas beaucoup d'avance, on dirait, pour éliminer cette situation où les gens sont payés si peu. Ils ont dit qu'ils sont en train de développer une façon de consulter un peu plus. Donc, vraiment pas très spécifique là. Mm-hmm. Et pour le moment, ça veut dire qu'il y a à peu près 20 000 personnes autour de l'Australie qui travaillent dans des situations comme ça. Donc, 20 000 personnes qui sont payées aussi peu que $6 à l'heure. Mais tout ça, ça date de très longtemps aussi. Ça date, en fait, des années 50, quand c'était les parents des enfants avec disabilité qui avaient créé ce qu'on appelait des sheltered workshops, où leurs enfants pouvaient travailler, ils pouvaient aller pendant la journée. Donc, ça vient de quelque part de bien. Quand
ouais,
même.
D'une bonne intention, mais bon, les temps ont changé.
D'une bonne intention, voilà. Mais maintenant, ça, c'était les années 50. Donc là, 75 ans plus tard, ça marche plus vraiment.
Ah, d'accord. Bah, merci en tout cas d'avoir mis ça, le coup de projecteur sur cette question, Nicolas, cette semaine avec nous. Merci.
Merci.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
Thank you. SBS en français. Partagez nos rubriques sur Facebook.
Bon, une vieille connaissance hein, du programme en français sur Radio SBS avec Alex Rougeau de Clocachet. Salut Alex.
Salut Christophe, comment vas-tu?
Ça va impeccable, ça fait un moment hein, qu'on se connaît, parce que je crois qu'on s'est rencontrés, vous veniez tout juste d'arriver au consulat, et c'était Daniel Kemp à l'époque qui nous avait introduit. Vous avez fait un beau chemin quand même.
Ben, ça fait 12 ans désormais que je suis à Melbourne, et c'est vrai que Clocachet a grandi énormément depuis. En fait, nos 10 ans de business hein, cette année, avec un portefeuille qui était né uniquement français. C'était vraiment le savoir-faire de Clocachet, et on est très heureux cette année de pouvoir aussi étendre à des producteurs du Victoria pour mettre en avant le savoir-faire local.
Alors, juste expliquez-nous, Clocachet, c'est plus qu'un revendeur de vin, parce que c'est pas... Il y a des idées de grossistes, si on parle de vin. Vous êtes plus dans le côté cachet, enfin justement, le côté un peu plus boutique. Vous sélectionnez réellement les vins. Il y a un réel amour du produit derrière.
Ouais. Alors, totalement. On est clairement dans le haut du panier au niveau compétences hein, pour ces producteurs. Mon travail à moi avec mon expertise, c'est de pouvoir aller dans les campagnes françaises, au cœur des vignobles, de trouver les talents. Alors qu'ils soient jeunes, plus âgés, multigénérationnels ou nouveaux domaines, on essaye de trouver vraiment les producteurs qui font la différence. Et notre rôle, du coup, sur le marché en Australie, effectivement, on fournit du vin prioritairement au restaurant, c'est de pouvoir avoir un angle éducatif et de connecter les professionnels à ces producteurs qui, eux, n'ont pas une minute pour faire ce travail.
Il y a un renouvellement en France de tout ce qui est viticulture. Vous parlez des nouveaux producteurs. Bon, la terre s'agrandit pas, les vignobles ne se créent pas forcément. Par contre, il y a des nouvelles têtes, des nouvelles approches, je suppose, dans le vin. C'est ce que vous voulez dire par là?
Ah, complètement. On voit une énergie folle, même dans des vignobles très établis comme Bordeaux, comme la Bourgogne. On a, nous aujourd'hui, d'ailleurs, c'est notre mission de trouver le jeune talent, le nouveau, la nouvelle, et à peu près la moitié de nos producteurs de Bourgogne aujourd'hui sont des jeunes qui ont commencé, qui ont soit repris les vignobles de famille ou qui ont réussi à s'établir dans les régions viticoles. Donc effectivement, ce n'est pas figé. On a des traditions très fortes, mais beaucoup, beaucoup d'innovations dans ces vignobles, et c'est ce qu'on veut mettre en avant.
Ça change un peu le monde, hein. On le voit à nos pieds, dans les réseaux sociaux, ça change partout, même dans des univers qui peuvent être un peu plus clérosés, je serais tenté de dire, comme le vin, comme des choses qu'on beaucoup plus enclins dans la tradition. Vous êtes en train de nous dire que cette tradition est en train de changer.
Totalement. Et en fait, ce qui est fascinant, c'est que souvent, on voit les changements initiés par la clientèle. Et ce qu'on voit sur le marché australien, par exemple, c'est un appétit énorme pour des régions qui étaient moins connues. On pense notamment à la Savoie, on pense au Jura, des micro-régions hein, qui sont toutes petites en production.
La Mondeuse, le Chignin.
Exactement, la Mondeuse, les Belles-Jacquaires. Et ça crée, ça émoustille les papilles du consommateur et tout de suite, ils se mettent derrière, le mot passe. On a aussi une chance incroyable aujourd'hui, c'est que l'information circule très vite. Donc ces jeunes producteurs peuvent s'établir assez rapidement et créer une bulle de consommation dans le monde qui leur suffit avant de leur production.
Et c'est une dernière question là-dessus, mais est-ce que on voit le changement vers beaucoup plus des marques de vin? Parce que on sait que les Australiens sont très attachés à la marque. En France, c'était quand même beaucoup des châteaux, c'était assez vieillot dans ce sens-là. Mais est-ce qu'on voit un changement vers plus une idée de marketing et d'image de marque?
Ouais. Alors on a toujours évidemment cet effet, mais je trouve qu'il est moindre. Je l'attribue encore une fois à la capacité du consommateur à s'informer, d'aller un peu plus au contact via des intermédiaires comme nous, mais évidemment en s'informant sur les réseaux sociaux, sur Internet, en regardant des vidéos. On comprend que le consommateur est un peu plus aventurier et d'ailleurs il aime à avoir un petit peu plus d'informations et à se démarquer de gros producteurs qui sont peut-être aujourd'hui plus assujettis à des productions industrielles. Alors on va chercher plus l'artisanat, on va chercher des choses très pointues, des goûts très particuliers aussi.
Bon, vous vivez le rêve de tout amateur de vin.
Complètement.
Merci Alex.
Merci beaucoup Christophe.
SBS en français est disponible quand vous le souhaitez. Écoutez nos rubriques à travers nos podcasts sur votre tablette ou votre mobile gratuitement sur sbs.com.au/french.
ou télécharger l'application SBS Radio.
Il fait chaud à Saint-Malo. 13h46, vous êtes sur SBS, c'est l'émission en français, et on vient d'écouter la chanteuse Corinne qui nous donne envie de bouger avec cette chanson, une chanson intitulée « Il fait chaud ». On arrive maintenant dans la dernière partie de notre émission et on va revenir sur un moment douloureux de l'histoire australienne, le bombardement de Darwin en 1942, une attaque portée par les Japonais durant la Seconde Guerre mondiale, une attaque qui va également sceller une alliance et voire même l'allégeance de l'Australie envers les États-Unis. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de notre série sur l'histoire cachée de l'Australie. Comme à chaque fois, on va discuter avec l'historien Romain Fati. Bonjour.
Bonjour Grégory.
Alors, les deux précédents épisodes de notre série, on s'est intéressé au territoire du Nord. On va y rester encore aujourd'hui pour parler plus spécifiquement de Darwin, puisqu'en fait, c'est sans doute, c'est même sûr, en fait, c'est la ville qui a été la plus affectée par la Deuxième Guerre mondiale. Il se trouve que la ville de Darwin, donc, a été bombardée par les Japonais et cette attaque reste la plus grave de toute l'histoire de l'Australie. Elle n'a jamais subi une autre attaque venue d'une puissance étrangère plus meurtrière que celle-ci.
Oui et non. L'historien que je suis vous dirait que l'invasion la plus dramatique pour l'Australie est celle qu'ont commise les Britanniques en dépossédant les aborigènes de leur territoire de façon systématique et sur plusieurs décennies. Donc là demeure l'invasion la plus large et la plus violente de l'histoire australienne. Mais effectivement, sur la période de l'Australie coloniale, c'est-à-dire après cette invasion qui commence en 1788, les bombardements qui ont lieu à Darwin à partir du 19 février 1942 sont effectivement l'attaque la plus importante et la plus grave qu'ait connue l'Australie dans sa période coloniale. On parle de quand même au plus de 115 tonnes, donc 115 000 kilos de bombes qui ont été lâchées sur Darwin en une journée, ce 19 février 1942, sachant que d'autres bombardements ont eu lieu pendant encore plusieurs mois à Darwin et dans le nord de l'Australie également.
Et donc, cette attaque, c'est une victoire assez nette des Japonais. J'ai lu ici et là qu'on parle, en plus ça intervient trois mois après, qu'on compare un petit peu en disant que c'est un petit peu le Pearl Harbor australien. Est-ce que c'est une comparaison qui vous semble pertinente?
C'est un peu l'histoire de la grenouille qui vous laisse faire plus gros que le bœuf, et je dis ça sans moquer les Australiens, mais on ne peut pas comparer la puissance impériale, même si ce n'est pas un empire, des États-Unis et celle de l'Australie. Alors effectivement, en termes de force de frappe, la journée de Pearl Harbor est finalement pas si différente, parce que là, il s'agit de 130 tonnes de bombes. En réalité, moins de bombes ont été lâchées sur Pearl Harbor le 7 décembre 1941 qu'à Darwin. Mais le type de bombe qui a été lâchée sur Pearl Harbor était beaucoup plus importante, c'est-à-dire moins de bombes en volume, mais plus de capacité de destruction. Pareil, le bilan en hommes et en femmes à Pearl Harbor est bien plus important, puisque la flotte a été surprise au mouillage. Certains navires, comme l'USS Arizona, quasiment tout le monde est mort au moment des frappes, des torpilles également qui ont été lâchées en plus des bombes. Donc c'est absolument catastrophique. Et surtout, la différence majeure, c'est que à l'époque, le 7 décembre 1941, les États-Unis ne sont pas officiellement en guerre avec le Japon. Quand l'Australie est frappée, la guerre est déjà déclarée. L'Australie est déjà en guerre. Donc elle aurait pu savoir, surtout trois mois après, que mettre ses bateaux côte à côte au mouillage n'est pas forcément une bonne idée. Donc, en termes de vie, en termes de coûts, c'est pas comparable. Et en termes d'impact, c'est pas comparable. Là, le Japon, c'était une déclaration de guerre ouverte aux États-Unis, ce qui fait que la Deuxième Guerre mondiale rentre dans une phase totalement différente avec la guerre du Pacifique. Pour ce qui est du bombardement de Darwin et du nord de l'Australie, que ce soit vers Broome en Australie occidentale ou Townsville ou Mosman dans le Queensland, il s'agit de guerre psychologique. Alors oui, c'est une victoire dans le sens où vous avez un certain nombre d'infrastructures qui sont détruites à Darwin, d'infrastructures militaires, des navires, des pistes, des réservoirs d'essence. Mais du point de vue stratégique, c'est pas comparable.
Alors, on en a parlé dans d'autres épisodes de notre série. À ce moment-là précis, les Australiens sont persuadés que les Japonais veulent en fait envahir leur pays et prendre, comme ils le font dans une bonne partie de l'Asie du Sud-Est. Hein. D'ailleurs, il y a des raisons d'y croire, on va dire. Et pourtant, on sait, enfin, l'histoire nous prouve que les Japonais n'en ont en fait jamais eu l'intention. Vous évoquiez à l'instant un aspect de guerre psychologique. Est-ce que c'est la seule raison qui explique pourquoi les Japonais frappent l'Australie ?
Alors non, il y a des raisons stratégiques et militaires. Il s'agit d'essayer de couper les approvisionnements vers d'autres îles, comme Java par exemple. Donc il y a un intérêt stratégique à attaquer les défenses australiennes, il y a déjà du personnel américain aussi dans le coin, de sorte à permettre à l'avancée japonaise, en fait au déferlement hein, des Japonais dans la zone Asie-Pacifique, c'est absolument spectaculaire en termes de vitesse et d'ampleur. Ça permet aux Japonais de continuer à solidifier leur avancée, et c'est pareil, on le voit sur la Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui à l'époque, la moitié est une colonie australienne. Donc non, il y a un intérêt stratégique.
Parce que, juste pour que ça soit clair, en fait, l'Australie, dans le cadre de la Deuxième Guerre mondiale, sert un petit peu de base arrière aux Américains, en fait, dans la région.
Oui, complètement. Alors là, on part sur un point différent, mais je vais essayer de goupiller les deux en même temps pour vous. L'Australie, en 1939, n'est pas prête. Elle n'est pas prête économiquement, elle n'est pas prête militairement. Il n'y a rien qui va. Hein. Je ne suis pas le seul à le dire. Hein. Vous avez un certain nombre d'historiens. Ian Johnston Smith, par exemple, dans son livre qui compare les pays du Commonwealth à l'entrée de la Deuxième Guerre mondiale, identifie très clairement que l'Australie est loin du compte. L'Australie pense à la doctrine de Singapour. C'est-à-dire que la flotte britannique doit protéger l'Indo-Pacifique et offrirait sa protection à l'Australie, comme elle l'a fait hein, depuis la colonisation. Cependant, il y a une déroute à Singapour. D'ailleurs, quelques jours avant les bombardements de Darwin. Si bien que l'Australie se retrouve à nu, abandonnée par la Grande-Bretagne, enfin abandonnée pas par choix, par force, par l'ampleur des succès japonais. Et donc le Premier ministre de l'époque, Curtin, Premier ministre australien, a ce qu'on appelle le call to America, l'appel aux États-Unis, en disant « s'il vous plaît, venez nous aider parce qu'on n'est pas capable de nous défendre nous-mêmes, on n'a pas assez d'hommes, par ailleurs on a déjà envoyé des hommes en Afrique, au Moyen-Orient et en Europe pour se battre, et donc nous sommes réellement découverts ». Si bien que sur la période 42-45, vous avez grosso modo une personne sur huit en Australie qui est américaine. C'est énorme, c'est absolument énorme. Plus de, je crois, 2 millions de GI qui ont opéré des rotations de services sur ces années-là. Donc, énormément d'infrastructures sont construites par les Américains, des railways, des chemins de fer, des pistes d'atterrissage, enfin, énormément d'équipements militaires. Donc, la défense de l'Australie se fait par la présence américaine. Et c'est effectivement une base arrière. On n'est pas sur des endroits de lieux de combat comme ont pu l'être la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les îles Salomon, les grandes batailles, Midway, etc. Non, l'Australie, c'est une base où les GI viennent se reposer, se refaire une santé et sont déployés depuis l'Australie. Donc ça, c'est un point très important. Le deuxième point, ou du moins le premier que vous aviez mentionné par rapport à l'invasion des Japonais en Australie. C'est un des mythes les plus durables et les plus coriaces dans ce pays. Alors peut-être parce que voilà, on se sent important si on fait partie du grand jeu et que les Japonais veulent nous envahir. Seulement, l'historien professeur Peter Stanley, qui enseignait à UNSW Adfa à Canberra, ainsi que d'autres historiens, ont montré très clairement qu'il n'y a pas de plan d'invasion des Japonais de l'Australie. Il n'y en a pas. Ça a été vaguement discuté, mais vous ne trouverez pas d'archives au Japon. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Pourquoi ? Parce que les conquêtes coloniales japonaises dans le Pacifique sont suffisantes. Sont suffisantes pour l'approvisionnement en caoutchouc, en pétrole, en minerais. Il n'y a aucun intérêt à aller perdre des forces à occuper un pays gigantesque quand en fait vous avez déjà ce que vous voulez. Et par ailleurs, l'ennemi principal, ce sont les États-Unis. Après, il y a un point très important ici. J'ai parlé de guerre psychologique. Le fait que le Japon n'ait jamais voulu envahir l'Australie, on y est pensé de façon sérieuse, ne veut pas dire que le ressenti des Australiens était différent. Et en réalité, il l'était. Hein. C'est-à-dire que pendant toutes les années 20 et les années 30, l'Australie vit avec cette peur de l'invasion, hein, puisque elle-même a été envahie, et donc les descendants britanniques savent que ce qu'ils ont fait aux aborigènes peut potentiellement être fait. Donc ils ont un gros complexe de Masada depuis 1788. Ça s'est exercé envers les Français, envers les Russes, envers les Indonésiens, envers les Japonais, et puis maintenant envers les Chinois. Bref, tout ça pour dire que les Australiens de 1920-1930, de début 40, sont convaincus que les Japonais vont les envahir. Et ils sont convaincus parce que c'est une armée impériale absolument gigantesque. C'est David contre Goliath. Enfin, vous imaginez, vous êtes le Liechtenstein et vous pensez aux troupes soviétiques ou aux troupes allemandes. Vous ne faites pas le poids. Vous ne faites pas le poids en termes d'hommes, en termes de capital, en termes d'économie, en termes de production de guerre. Donc effectivement, vous avez une peur qui est raisonnée et concevable. Le fait qu'elle ne se manifeste pas est quelque chose de différent, mais on peut comprendre pourquoi les Australiens ont eu peur. Parce qu'effectivement, s'ils n'avaient pas été couverts par les États-Unis et que le Japon aurait voulu envahir l'Australie, ce qu'il n'a pas voulu faire, effectivement, ils n'avaient aucune chance.
Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/french.
Tu es parti pour l'orage. Close your eyes and goodbye.
Lassé de t'entendre et de devoir te défendre.
Close your eyes and goodbye.
Tes soupirs me dérangent et seul l'horizon change.
Ton air triste.
Et SBS en français, c'est fini. Pour aujourd'hui, on se quitte sur ce morceau, Corail. Il est interprété par le chanteur Julien Doré. En ce qui nous concerne, on se retrouve samedi pour une nouvelle émission. Et d'ici là, je vous rappelle que vous pouvez bien sûr nous écouter gratuitement et quand vous voulez en podcast. Vous retrouverez nos interviews, nos émissions sur toutes les bonnes plateformes audio, ainsi bien sûr que sur notre site SBS French. Je vous souhaite un excellent après-midi et je vous dis à très bientôt.
Lassé de t'entendre et de devoir te défendre.
Close your eyes and goodbye.
Tes soupirs me dérangent et seul l'horizon change.
Close your eyes and goodbye.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.